Micro-cravate.
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 Micro.
Micro-cravate.
Micro-cravate.
Vous écoutez Micro-cravate, l'émission de reportage et création sonore qui se balade entre Bruxelles et Montréal. Aujourd'hui, l'émission part en exploration. Tout d'abord avec Jérémy, qui depuis San Fernando nous envoie une carte postale du marché. Sophie parlera ensuite pollution et écosystème avec un expert S-Moule revenu des îles Kerguelen. Enfin, Jacques et ses écrivains partiront à la découverte d'un monde post-apocalyptique. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce 20e numéro de Micro-Cravate sur les ondes de choc. Avec vous, Anna Massé et Gauthier Piatek. Salut Gauthier.
Salut Anna, bonjour à tous.
Nous sommes le dimanche 12 avril. Aujourd'hui, on part en balade aux quatre coins du monde.
Que nos esprits s'épanouissent.
Direction les Philippines pour notre première destination. Notre journaliste Jérémy Audouard est parti en reportage pour couvrir les rituels de Pâques. Mais en attendant le grand jour, il flâne au marché, teste les spécialités locales et tente de converser dans son anglais inimitable. Ambiance.
Alors bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-Cravate. Je me trouve en ce moment même à San Fernando, c'est aux Philippines. On est à peu près à 50 km au nord de Manille. Donc c'est dans le nord de l'archipel. San Fernando, c'est une ville qui fait à peu près 150 000 habitants. Et là, je me retrouve en ce moment même sur le marché. C'est un marché permanent. Un marché typique asiatique. Il fait très chaud. On vend plein d'objets en plastique made in China. Plein d'objets pour la maison. Il y a aussi des fruits, des légumes locaux, des noix de coco, des trucs, je sais même pas ce que c'est. Des bananes surtout. Là, par exemple, une grosse grappe de bananes, ça coûte 2 pesos, donc ça fait 10 centimes la grappe de banane. Ça va ? Alors, ce qu'il y a tout le temps d'un peu dégueu sur les marchés comme ça, enfin, les marchés dans les pays chauds, c'est le rayon viande. C'est des boucheries en plein air avec des mouches et la chaleur, l'odeur et tout, c'est assez dégueulasse. Alors, what? I'm just walk inside the market.
What?
Tourism.
Tourism.
You sell. You are a seller here.
No, I'm buying.
How many?
No, no.
How many?
Okay. Là, je suis avec quelqu'un qui parle pas très bien, il a un petit problème à la bouche. Il est assis sur un stand où il y a des gens qui vendent des bonbons et des cigarettes. Il y a un petit bébé. Hello.
Hello, po. Hello, po.
Et il parle pas, mais c'est sa maman qui parle à sa place. Hello. Hey. Bon, ici tout le monde nous dit bonjour. C'est vrai que les blancs, on n'en voit jamais en fait. On est les seuls blancs. Ça fait un peu bizarre. Alors là, en ce moment, c'est à peu près calme parce que d'habitude ici, c'est rempli de motos, de tricycles à moteur. C'est hyper bruyant, hyper pollué. C'est pollué comme on peut voir qu'en Asie, encore une fois, c'est à la fois ces atmosphères étouffantes et où à chaque fois qu'on respire, on sait qu'on s'encrasse les poumons, mais vraiment là pour de bon. Je suis juste à côté d'un vendeur de poulet, ils vendent un peu de poulet grillé. Ici aux Philippines, c'est surtout ce qu'on mange du poulet, la viande. Tout à l'heure, on discutait avec quelqu'un qui nous disait qu'on mangeait aussi du chien et du chat. What?
T-shirt.
T-shirt. Oh. Alors là, je suis sur un petit stand, il y a des gens qui montent des espèces de raviolis. Je ne sais même pas trop si c'est des raviolis, un mélange de raviolis et de saucisses. Chacun prend une petite pique et trempe dans un gros bocal.
Shut up.
What's that?
Fishball, fish. Fishball.
What's that?
Oh, fishball. Oh, try. Try, we can make it.
Bon, ça fait marrer tout le monde. What?
Egg.
This is egg?
Yes.
No, just a, what's that? This one?
Oil. Mantica.
Oil.
Yes. Cooking oil.
Il y a quelqu'un qui vient de me proposer des œufs avec de l'huile. Ça me fait pas trop envie. Alors ce qui est assez étonnant ici, c'est que les chevaux servent encore à transporter les gens, donc c'est des petites calèches. Chez nous, c'est le truc pour les touristes, mais ici, on se sert encore vraiment de chevaux avec une vieille calèche en bois et des grandes roues en pas très bon état, souvent. Alors là, on quitte le marché pour se retrouver vers une rue plus commerçante. C'est des magasins qui vendent... Enfin, c'est vachement de plastique. Là, par exemple, c'est des ballons made in China, des bouées made in China, des calendriers made in China. On trouve pas, c'est assez bizarre parce qu'on trouve pas, par exemple, d'artisanat philippin. Rien du tout. Et des bijoux en toc, des vêtements qui valent rien du tout, il y en a un paquet. Là, il y a trois types avec les cheveux longs qui tournent un peu du cul, qui viennent de nous faire un petit coucou avec un grand sourire. C'est des transsexuels ici, il y en a un paquet, ils vivent totalement normalement. Ils sont complètement intégrés, personne ne fait attention à eux. Contrairement à chez nous, ces gens-là seraient complètement... montrer du doigt, ici, ils sortent entre potes, même à la campagne, on a une part de féminité qui est hyper bien acceptée et à laquelle plus personne semble faire attention. Bon, voilà pour ce petit tour dans le centre de San Fernando. Il fait toujours super chaud, là, il fait peut-être encore une trentaine de degrés, on va rentrer et à bientôt.
Si vous désirez en savoir plus sur le reportage de Jérémy, ainsi que sur les crucifixions qui font partie du folklore philippin, ou si vous désirez soutenir financièrement son reportage, qui s'intitule « Les stigmates de Ruben », on vous invite à consulter les liens présents sur la page de l'émission.
Savoir parfois sacrifier du temps aux choses importantes, voire essentielles, comme par exemple la cravate.
Ce son, vous l'avez peut-être déjà entendu. Oui, un bruit de pas sur un tapis de moule. Pas n'importe lesquels, puisque ce son a été capté aux îles Kerguelen. Alors, petit rappel, les îles Kerguelen, c'est un archipel français situé au sud de l'océan Indien, à 3500 km de toute terre habitée. Donc le lieu est réservé à la recherche scientifique et sa population se résume à la faune locale et aux équipes de chercheurs qui s'y relaient. Justement, notre journaliste Sophie Poisson a rencontré l'un d'entre eux. Marc Fraser, doctorant en biologie à l'Institut National de la Recherche à Laval, fait partie des rares privilégiés à avoir pu fouler le sol de Kerguelen. Interview réalisée à Montréal au retour de 4 mois de mission.
J'étais appelé là-bas Pop Moule pour la population des moules. Donc j'étais le gars qui étudiait uniquement les moules. En fait, c'est le programme IPOC. Le programme IPOC, c'est pour Interaction Between Pollution and Climate Change. Donc c'est un gros programme international qui regroupe 16 institutions, surtout au Québec et en France. Et le but du projet, c'est d'évaluer l'impact des polluants environnementaux sur la santé des moules, mais dans le cas où il y a un changement climatique. Donc, les paramètres de l'eau sont modifiés, donc la salinité, le pH, ainsi que la température.
Qu'est-ce qu'elles ont, les moules là-bas, qu'on ne trouve pas, par exemple, ici?
Les moules qui sont là-bas, les moules bleus, c'est les mêmes que les moules qu'on peut retrouver en métropole, donc au Canada ou même en France. Sauf que là-bas, c'est un climat différent. Donc, la température de l'eau est assez stable, ce qui fait en sorte que la moule est un bon moyen d'étudier les changements climatiques, puisqu'elle n'a pas subi des changements, des variations de température comme elles subissent en métropole à cause des variations de saison. Vu que le programme, c'est un programme international qui se divise sur toute la planète, donc il y a des moules aussi pour le même programme qui ont été pêchés en Arctique canadien, puis aussi en France et au Canada, puis en Antarctique, donc aux îles Kerguelen. Ça permet d'avoir un effet global, donc voir les effets des polluants sur le changement climatique, pas avec un changement climatique, devrais-je dire, si c'est pareil partout, mais où ça peut varier selon l'habitude des moules dans une certaine région.
Est-ce que c'est quelque chose que n'importe qui peut faire?
Le travail que moi j'ai effectué là-bas, à la base, tout le monde pourrait apprendre pour le faire parce que j'étais pêcheur de moules, qui est assez simple. On pêche des moules à la main. Par la suite, on faisait des dissections, ce qui est assez simple. Mais par contre, tout le volet du système immunitaire des moules, qui était fait par ma collègue au départ, donc Pauline Brousseau, ça demande quand même des études universitaires pour pouvoir utiliser les trucs. Puis on m'a choisi aussi pour mes compétences en recherche et ma débrouillardise aussi, parce qu'en cas de pépin, je pouvais prendre la relève de Pauline. Puis heureusement qu'on m'a choisi, parce que Pauline, justement, s'est fait une fracture de la cheville à la mi-parcours. Elle a dû être rapatriée, et donc j'ai dû prendre en charge tout le programme. Et donc, si j'avais pas eu ce background universitaire, ça aurait été impossible pour moi de faire le programme. En fait, le fait d'avoir été choisi, c'est vraiment un exploit en soi, parce qu'il faut d'abord qu'on soit choisi par le programme pour nos compétences, mais aussi par la suite, on passe une panoplie de tests médicaux, psychologiques, dentaires aussi, pour s'assurer qu'on n'ait pas de pépins lors de notre séjour là-bas. Parce que s'il nous arrive quelque chose, oui, il y a des médecins sur place, il y a 2 médecins généralistes, mais en cas de pépins, ils peuvent pas tout faire. Et donc, les gens qui nous envoient là-bas doivent s'assurer qu'on est en bonne santé. Et c'était quoi le reste de la question?
C'était de savoir justement si c'était comme une élite.
Pour un Canadien, c'est sûr que c'est vraiment exceptionnel. Donc, de pouvoir aller dans les terres australes françaises, c'est quelque chose qui est très rare, en fait. Il y a quelques Canadiens qui ont été avant nous, mais ça se compte sur le doigt d'une main, en fait. Mais pour les Français, c'est un peu plus ouvert, mais il faut faire un service civique, en fait, pour pouvoir aller. Ou être militaire, parce qu'il y a beaucoup de militaires qui sont là. Et donc, ça dépend du programme, mais oui, en fait, c'est un honneur d'avoir été choisi pour pouvoir aller sur cette île déserte au milieu de nulle part, au milieu de l'océan Indien, où c'est impossible de se rendre en avion. Donc, c'est une chance exceptionnelle que j'ai eue.
Comment s'est passé le voyage, en fait, entre le Canada et puis l'île?
Je suis parti en avion jusqu'à l'île de la Réunion. Puis à l'île de la Réunion, on a fait le voyage de 8 jours pour se rendre à Kerguelen, en passant par l'île Crozet, qui est aussi une île qui appartient aux terres australes et antarctiques françaises. Le voyage était assez tranquille, malgré la petite houle, mais assez calme à ce qu'on m'a dit. Pour moi, ça a été très difficile parce que j'ai eu le mal de mer et donc j'ai passé la majorité de mon temps dans ma cabine à écouter des films. Donc c'était assez relax pour se mettre en préparation pour toute l'activité intense qu'on avait dès notre débarquement sur l'île.
Comment est-ce que vous décririez cette île?
Je connais pas beaucoup la France, mais on m'a dit que c'était à peu près la grandeur de la Corse. Donc c'est quand même pas une petite île, c'est un archipel d'îles en fait. C'est une île volcanique à la base, donc il y a beaucoup de cailloux, peu de végétation, très peu de végétation, aucun arbre. C'est une île quasi déserte, si ce n'est des animaux qui peuvent y habiter. Comme les éléphants de mer, les manchots et certains oiseaux marins aussi. Beaucoup de rivières aussi, donc on se sent un peu comme chez soi, comme ici au Québec, mais sans les arbres, en fait.
Est-ce qu'il y avait des heures de travail à accomplir chaque jour? Est-ce que ça se passe comme une journée normale ici au Canada?
Non. En fait, on n'a pas d'heures. On travaille quand on veut, tant que le travail est fait, en fait. Donc, on a un programme établi. On doit atteindre nos buts avant la fin de la mission. Donc, que moi, j'avais 2 mois pour accomplir tout ce que j'avais à faire. Et je travaillais quand je pouvais. Et il y a aussi des pépins qui arrivent en laboratoire, et donc t'es obligé de rester plus tard. Donc j'ai fait à quelques reprises des nuits blanches, mais vu qu'il y a des journées où j'avais pas beaucoup de choses à faire, ça s'équilibrait assez bien.
Est-ce que vous commencez déjà à avoir des résultats, à savoir un petit peu quelles sont les conclusions de ce travail?
Pour l'instant, on n'a pas encore de résultats, puisque moi, ce que j'ai fait, j'ai récolté les moules là-bas, je les ai disséqués, on a avec toute l'équipe de là-bas, et on a envoyé tout ça par bateau, et donc ça ne sera pas arrivé en laboratoire avant le mois d'août. Donc, avant le mois d'août, les gens attendent, en fait. Donc, les moules sont congelées dans un congélateur de moins 80 degrés Celsius qui a fait la route sur le Marion Dufresne, donc sur le bateau en même temps que moi. Et là, maintenant, ils sont en voyage vers Reims. L'Université de Reims va ensuite dispatcher ou distribuer chacun des échantillons aux divers intervenants qui sont impliqués dans le programme IPOC.
Les jours où vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous faites?
Personnellement, j'allais au gym. Il y avait un gym sur place. Et aussi, je lisais beaucoup. La bibliothèque était extraordinaire. C'est une petite bibliothèque en bois. C'est une ancienne station météo. Et avec plein de livres. Sinon, on fait l'apéro. Et il y avait beaucoup d'apéros sur base avec les militaires, avec les gens qui habitaient sur base. Puis il y a aussi un bar, et donc on pouvait faire la fête une fois par semaine. Il y a quand même un décret sur la consommation d'alcool là-bas, fait par le préfet, donc on était assez limité. Mais il y avait assez d'activités, on pouvait aussi aller se promener autour de la base, voir les animaux, prendre des photos. puis il y avait un cinéma, donc on pouvait s'asseoir au cinéma et regarder une panoplie de films. Il y a une belle banque de DVD là-bas.
Combien il y a de personnes qui sont sur place? Qui sont ces personnes? Et puis est-ce qu'il y en a qui restent tout le temps ou il y a que des voyageurs comme vous?
Combien de personnes? Ça dépend en fait de la saison. Si c'est l'été, là, il y a tous les scientifiques de plein de programmes qui sont invités à aller faire des expériences et tout. Donc là, ça peut atteindre 120-140 personnes selon le moment. Cependant, pendant l'hiver, c'est seulement les gens avec des programmes à long terme qui doivent avoir un suivi durant l'hiver, mais aussi les militaires qui habitent sur l'île. Donc ça fait environ 40 personnes qui passent un hivernage là-bas.
Est-ce qu'on se sent isolé du monde?
On se sent assez loin de tout le monde, en effet, puisqu'on n'a pas Internet. En fait, c'est pas tout à fait vrai. On a Internet, mais c'est à un niveau très faible. Donc, pour ouvrir une page Facebook, par exemple, j'avais le temps de lire une BD avant de pouvoir avoir accès au Messenger. On avait aussi accès à un courriel spécifique qui nous permettait de communiquer avec nos proches. Mais généralement, on avait très peu de nouvelles. Les gens continuaient leur truc. On n'a aucun moyen de savoir l'actualité et tout ce qui se passe. Donc, on se sent assez loin, mais c'est quand même rafraîchissant, en fait, de se déconnecter de tout ça. On se sent bien, on se sent un peu libéré. Le fait de ne pas avoir de téléphone cellulaire à portée de main qui nous dicte les courriels, qui nous dicte notre vie sociale et tout. Donc, ça nous remettait un peu en perspective, nous concentrait un peu sur nous-mêmes. Ça devient un peu égoïste, en fait. Mais c'était quand même une belle expérience et ça fait du bien.
Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de garder maintenant que tu es revenu?
J'aimerais bien, mais c'est assez difficile parce que quand on revient, on revient dans notre moule un peu déjà établi avant de partir. Malgré que je suis parti seulement que 4 mois, c'est revenu assez rapidement. Les responsabilités du laboratoire, faire l'épicerie, faire la nourriture qu'on n'avait pas besoin de faire à Kerguelen. Et donc, tout ça fait en sorte que c'est difficile de se déconnecter. Puis aussi, on a accès maintenant à toute l'actualité. Donc, j'aime bien l'actualité en général. Donc, se garder informé, c'est quelque chose d'important. Mais que finalement, j'essaie de m'éloigner un peu. Mais au final, on finit toujours par tout savoir puisque tu rencontres des gens dans la rue qui vont te parler du match de hockey d'hier ou du fait que tel ou tel ministre a été démis de ses fonctions et tout.
Est-ce que si on te proposait d'y retourner, tu retournerais?
Sans hésiter, oui. Je partirai demain matin. Je suis prêt, j'ai tout l'équipement qu'il faut. Je ferai n'importe quelle mission là-bas. J'apprendrai à travailler avec les éléphants de mer ou les manchots. Ou je pourrais même faire la cuisine ou la vaisselle. Ça ne me dérangerait pas du tout.
Pour en savoir plus sur l'aventure de Marc Fraser, rendez-vous sur son blog unbrillonaukerguelen.wordpress.com. On remettra le lien sur la page de l'émission.
À 7 heures, Mars s'efface doucettement. Mal réveillé, j'ai foutu le pied dans le cendrier. J'y avais cramé ce foutu papier qu'on m'avait envoyé. En recommandé. Et là-bas, je vais prendre mon bateau. Une dernière fois, le mettre à l'eau. Partir pêcher pour ne pas. Thank you. cassés, que de souvenirs dans mes casiers. C'est comme une trêve avant qu'on m'enlève. Je suis plus la part d'érision, mais à l'heure du départ, je prends du retard et je vomis sur le pont. Et là-bas, sur mon bateau, pour la dernière fois, pour cette fois oubliée. Et demain, sur ce qui est bizarre, tout l'on voit le fond, avec pour seul bagage mon cafard et dans le bide un hameçon. Je m'en vais là-bas. Par pure dérision, pour servir les jeux de la déraison. Et derrière moi, je laisse mon bateau.
Et pour finir, nous voici avec un nouvel épisode de Ficelle Pot de Yaourt. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le concept, il s'agit d'une histoire écrite à plusieurs mains, un cadavre exquis, mise en son par Jacques Le Bourgeois. Cette fois-ci, on part en expédition. Il est question d'aventuriers et de moustiques.
Pot de Yaourt, Ficelle, Pot de Yaourt, Ficelle, Pot de Yaourt, Ficelle.
Bienvenue dans ce 11e épisode. Je l'ai appelé Cousu de fil blanc. On dit de vous qu'une cohorte ne suffirait pas à vous ralentir. Votre nom éveille sans cesse les questions. Car il n'est pas un mois qui ne se passe sans que l'un de vos exploits ne nous soit rapporté. Vous avez éprouvé les plus longues distances connues, vous êtes allé là où personne n'ose s'aventurer. Vos détracteurs n'ont de cesse de chercher à vous démystifier, mais à ce jour, personne n'a pu remettre en doute les nombreuses prouesses qui ont forgé votre nom. Je me doute que certains des faits qui vous sont associés ont dû être exagérés, il ne peut en être autrement, car les histoires ont leur propre vie. Pour certains, vous êtes un colosse. Vos mains, à elles seules, auraient, paraît-il, suffi à terrasser le grand Nyat. Pour d'autres, vous n'êtes qu'un homme, mais un homme dont l'intelligence surpasse celle de nos plus estimés chefs de guerre. Alors qu'aucun des généraux présents lors de l'incident dit de la tour n'a su quelle décision il fallait prendre, vous avez à vous seul pris l'initiative de lancer l'attaque contre le seigneur Gend. Lui et ses hommes étaient craints dans tout le massif de Rigel. Sans votre intervention, le siège n'aurait pas pu être prolongé et la progression de l'armée de Skind vers le royaume de Nizel n'aurait pu être stoppée. Vous êtes devenu un héros pour bien des hommes. Vos méthodes restent pour le moins peu orthodoxes, il est vrai. De plus, les rumeurs à propos de votre force, soi-disant surhumaine, ne font plus illusion. Nous savons tous les deux qu'il ne s'agit là que d'un apparat pour exciter les foules. Vous devez être fatigué à présent. C'est étrange. Vous ne semblez pas en proie à l'accablement. Il n'est pourtant pas d'endroit sur Terre qui ne soit aussi reculé que notre cher royaume. D'autres avant vous ont répondu à notre appel, mais leur hardiesse n'avait pas votre égale. Ils ont fini, pour la plupart, au fond des gorges. Vous avez fait honneur à la bravoure qu'on vous attribue, mais soyez-en sûr, ce qui vous attend n'est en rien comparable. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il coule en nos terres un fleuve, le fleuve noir. À ses abords, et depuis quelques semaines déjà, on nous rapporte des faits étranges. Quelque chose dans ces eaux opaques terrorise les hommes. C'est du moins ce que l'on entend, car pour dire vrai, personne n'en est encore revenu. Cette chose, si l'on peut la nommer ainsi, inspire l'horreur. Les histoires et les rumeurs se sont chargées de détails macabres. Et maintenant, même nos plus vaillants soldats commencent à prendre peur. Peu de gens sont au courant de ce qui se passe vraiment là-bas. Et c'est pour éviter toute panique que nous maintenons un certain secret. Les routes sont désormais fermées vers le fleuve. Et nous avons fait courir le bruit que des mercenaires du Nord occupaient maintenant la région. Notre royaume, aux confins du monde, semble être devenu une limite, une frontière face à quelque chose de différent, d'indomptable. C'est pourquoi nous comptons sur votre force et vos connaissances pour nous dire ce qu'il en est vraiment. Vous comprenez sans nul doute les risques liés à cette mission. Il se peut que la mort vous y attende. Et ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Le fleuve corrompt, il transforme la chair, la manipule. Votre âme en sera peut-être affectée et aucune rédemption n'est envisageable. Un groupe d'hommes armés fera le voyage avec vous. Prenez garde, car là-bas, vous serez seul face à l'inconnu. Nous comptons sur vous.
Nous comptons sur vous. Eh ben, elle est bien bonne, celle-là. Non mais oh, vous allez surtout arrêter de me les casser avec vos histoires de fleuves à la con. Non mais parce que là, c'est bien beau de lancer des « vous allez faire ceci, vous allez faire cela, votre âme va se perdre dans le fleuve de la rédemption, du désespoir, de la bonne chair de mes couilles ». Non mais hé, vous allez surtout arrêter de me prendre pour une buse, et vous allez arrêter de casser mes burnes. Allez casser les vôtres, ça vous changera. Et puis quoi, des hommes armés? Non mais vous vous foutez de ma gueule, là. Déjà que je suis pas un grand fan des ordres et des consignes, et vous me collez une bande de trous de balles armées qui vont me suivre partout pendant que j'exécute vos basses œuvres. Non mais bougre de bon dieu de merde de putain de sa race, vous allez surtout vous les carrer là où je pense, vos hommes armés, et vous allez y aller tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, mais sans moi. Non mais sérieux, vous vous croyez vraiment au-dessus de tout le monde, hein? Non mais laissez-moi rire! Quoi? C'est parce que vous avez fait des études? Eh oh, moi je sors pas d'HEC, mais au moins je fais pas chier les honnêtes gens avec mes histoires. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit là? C'est votre devoir? C'est ça que vous venez de dire? Non mais oh là, mon devoir que dalle! Vous savez ce que c'est le devoir? Le devoir désigne l'ensemble des règles générales qui guident la conscience morale. Ouais, il est accompli par obligation en dehors de toute autre considération de volonté ou de désir. Le désir, quelle que soit sa forme, ça fait longtemps que j'en ai plus éprouvé. J'ai arrêté de sourire. Et je bande plus. Je parle même pas de ma volonté, elle a fait ses valises en même temps que ma première femme. Mais c'est pas une raison pour suivre des ordres aveuglément et crever la bouche ouverte dans un bled humide pendant que des gars sans dents se fendent la gueule par-dessus ma carcasse. Parce que c'est ça que vous me proposez. Un aller simple pour l'enfer. Quoi? Vous voulez que je cesse de parler en métaphore? Je comprends pas. On disait, ouais, parce que je m'attends pas au paradis. Une grille d'or éclatante, qui s'ouvre, tout ça, pendant qu'une musique céleste te pétrit le cerveau et te fait pleurer de sang de bonheur. En fait, j'attends rien. Vous ne croyez pas en Dieu? Le bien, le mal. Et sérieusement, vous croyez au devoir? Quoi? Un héros? Les héros, ça n'existe pas, parce que des gens qui ne meurent pas, ça n'existe pas. Mourir est la seule et unique obligation qui se présente devant tout être humain de cette planète. Et si vous y voyez pas d'inconvénient, à ce sujet, je vais attendre le plus tard possible pour accomplir mon devoir. Je peux pas vous aider, moi. Allez trouver quelqu'un d'autre. Je suis sûr qu'il y a tout un tas de jeunes gens prêts à se faire exploser la cervelle ou torturer à mort. Ils croiront que leur vie a un sens alors que c'est juste à ce moment-là qu'elle en aura plus. Tout un tas de jeunes gens, je vous dis. Vous auriez même l'embarras du choix parmi toute autre forme de vie grouillant sur cette planète. C'est pas ce qui manque, les parasites. Un moustique. Voilà un choix judicieux. Qui pleurerait la vie d'une créature aussi diabolique? Et puis le moustique, le sens de sa vie. Doutez-vous qu'il y accorde peu d'importance? Que diriez-vous d'en torturer un? Une expérience initiatique, en somme. Vous lui exploseriez la cervelle, vous lui découperiez les pattes, le feriez marcher sur un ruban de scotch, lui arracheriez les ailes, lui imposeriez de boire de l'alcool, l'offririez à un cruel prédateur, lui brûleriez la trompe,
Vous le cryogéniseriez, le noyeriez, le mangeriez. Vous vous apparenteriez dès lors à ceux dont si l'un de ces parasites se risque à les narguer de trop près, en plein rêve, la face obscure, violente et sadique, surgit de l'ombre sans prévenir. Un pervers, vous seriez enfin de cela. Voilà, c'est fini. Je tiens à remercier Quentin, Paul, Olivier et Marion pour leur participation à l'écriture de ce texte. Sans oublier le musicien de cet épisode, qui cette fois-ci n'était autre que Tom Ferrando. À la prochaine!
Micro-cravate.
C'était Micro-cravate. On salue les journalistes qui ont participé à l'émission, ainsi que tous ceux qui ont une âme d'aventurier. Micro-cravate revient le 10 mai. D'ici là, retrouvez les podcasts de l'émission sur choc.ca et plus de reportages sur le site microcravate.com. À 17h, retrouvez Mutation. Bonne fin de semaine sur Choc.
Bon dimanche.
I need two words.
Okay.
Micro cravate.